Ma solo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises.
Pour parler plus particulièrement de la place des femmes dans la vie politique, car notamment la RDC achève une période électorale, nous pouvons nous interroger sur le rôle significatif que les femmes élues jouent dans ce contexte en constante évolution. En parallèle, nous en avons parlé précédemment, la RDC est confrontée à des défis persistants, notamment la lutte contre le viol en tant qu'arme de guerre. Ainsi, dans ce contexte difficile, plusieurs questions. Quel rôle les femmes élues jouent-elles dans l'avancement des initiatives visant à éradiquer cette forme abominable de violence et à soutenir les victimes? Comment leur présence au sein des institutions politiques peuvent-elles influencer les politiques et les actions entreprises pour lutter contre le viol en tant que moyen de conflit armé? Et finalement, comment ces femmes élues contribuent-elles à façonner la scène politique du pays, apportant leurs perspectives uniques et travaillant à l'émergence d'une gouvernance inclusive?
Merci, chère Alice. Au fait, je commence par marquer une pause parce que dans un monde idéal, nous, on aurait espéré que les femmes, qu'elles soient 2, 3, 4 ou 5, ensemble, porteraient l'agenda pour faire avancer les droits de la femme. Mais comme vous avez demandé quel rôle significatif les femmes élues jouent, moi, je vais dire que ce n'est pas toujours le cas. Toutes les femmes élus ne sont pas acquises à la cause de l'avancement de l'égalité du genre, par exemple. Et donc, c'est là aussi un défi pour nous en tant qu'activistes féministes, mais aussi pour le mouvement féminin en soi. Et deuxièmement, le pourcentage des femmes qui arrivent à se faire élire n'a toujours pas atteint 15%. On aurait espéré que pour ces derniers processus, puisque avec la mesure incitative, on a pu faire enrôler 17% des candidatures féminines, on aurait pu faire élire 17% des femmes, puisque pour les autres cycles, ça a été le cas, 10% des femmes candidates, 10% des femmes élues à chaque fois, ou légèrement plus. Mais cette fois, pour 17% des femmes candidates, nous avons eu 14% des femmes élues, ce qui montre que la sous-représentation des femmes à l'hémicycle, ça pose problème. Et deuxièmement, la manière dont certaines femmes arrivent sur la scène politique, ça fait qu'il y en a qui ne comprennent pas qu'elles ont une responsabilité, pas seulement pour les femmes, mais pour la cohésion sociale, pour la justice sociale, pour l'inclusion sociale. Elles ne comprennent pas qu'elles ont le rôle de porter cet agenda, puisque en portant l'agenda de la justice sociale, de l'inclusion sociale, on contribue automatiquement à l'amélioration du statut de la femme. Et troisièmement, pour ces cycles, plus spécialement, en mettant la mesure incitative, on a dit les listes qui vont respecter la représentativité des femmes et de personnes vivant avec handicap, ne paieraient pas de caution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des partis politiques qui ont aligné les femmes pour nous faire arriver à 17% des candidatures féminines ont comme ça rempli leur liste par le nom des femmes qui n'avaient pas parfois l'intérêt politique, la connaissance politique, la volonté, la compétence qu'il faut, les moyens qu'il fallait afin de contribuer de manière significative une fois à l'hémicycle. Alors, ça fait que nous avons 14% des femmes. De ces 14%, peut-être que nous aurons encore 5% des femmes qui vont vraiment jouer le rôle. Nous l'avons vu à la législature passée. Nous travaillons pour la révision de la loi électorale, mais les premières à s'opposer à la révision de l'article 13 de la loi électorale, c'était les femmes élues qui sont à l'hémicycle. Pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes, alors qu'elles constituent déjà une minorité. Ce qui m'amène à dire que nous avons besoin de vraiment nous investir encore une fois dans la formation des femmes avant qu'elles ne soient élues, pour qu'une fois élues, qu'elles puissent mieux porter les causes que nous essayons de faire avancer.
Merci Annie. Pour revenir au sujet de l'accès à la justice, nous savons que cet accès peut être compliqué pour les femmes. En effet, un rapport du World Justice Project publié en décembre 2023 indique que les femmes sont confrontées à des obstacles plus importants que les hommes en matière d'accès à la justice dans 70% des pays et sont plus susceptibles d'être confrontées à d'autres difficultés en raison de ces problèmes juridiques dans plus de la moitié des pays du monde. Annie, pouvez-vous me parler des défis et obstacles auxquels les femmes en RDC font face en termes d'accès à la justice?
Merci. L'accès à la justice pour les femmes en République démocratique du Congo, c'est un réel défi, au fait. Premièrement, pour la plupart, il y a ces problèmes d'ignorance de leurs droits et devoirs. Alors, ce qui fait que par moment, elles ont des problèmes, elles ne savent pas qu'elles peuvent s'approcher de la justice. La deuxième chose qui constitue aussi une barrière pour les femmes, pour aller accéder à la justice pour la plupart qui sont dans les zones rurales, c'est aussi le problème des taux élevés d'analphabétisme parmi la population féminine. Et puis à ces problèmes, c'est suit aussi un défi qui est structurel, c'est l'éloignement des juridictions judiciaires des justiciables. Je prends un exemple de la province de la Tchopo où nous avons travaillé pendant 3 ans justement sur un projet de lutte contre les violences basées sur le genre en offrant des services d'accès à la justice. Vous allez avoir des problèmes de violences domestiques ou des viols qui sont commis dans un lieu et la prochaine juridiction qui doit prendre en charge ces cas est à 250 km. Il n'y a pas de route, il y a un fleuve, il n'y a pas de bateau et la police qui est affectée à l'endroit où les faits sont commis sont en sous-effectif. Donc, d'une part, il y a des défis au niveau personnel des femmes, mais par moment, la justice est tout simplement éloignée des justiciables. Et enfin, ce qui est aussi un défi réel, c'est la question du pouvoir économique. La justice a un coût énorme. Tout simplement parce que pour certains problèmes, il y a beaucoup de cas de corruption qui se passent ou il y a beaucoup de cas d'arrangements à l'amiable en contradiction avec ce que disent les lois. Par exemple, pour des questions de mariage précoce, des questions de violences sexuelles, il ne peut pas y avoir des arrangements à l'amiable. Mais par moment, au niveau de la police, ils peuvent arriver à réunir les deux familles, trouver un arrangement à l'amiable, tout simplement parce que pour eux, au-delà des 48 heures, il faut que les bourreaux soient libérés, alors ils préfèrent comme ça faire des arrangements. Et il y en a qui entrent dans un mécanisme de corruption pour prendre de l'argent et comme ça arrêter les problèmes à ce niveau-là. Donc l'accès à la justice, ça reste un défi. Nous avons aussi pendant très longtemps, il y a un problème des sous-effectifs aussi des magistrats qui soient déployés dans l'arrière-pays, dans les provinces, dans les territoires. Vous avez des endroits où vous avez des bâtiments de justice, mais il n'y a pas des magistrats, il n'y a pas des procureurs. Mais ces problèmes, l'État essaye de répondre à ça, mais il reste toujours et encore ces problèmes aussi, d'autre part, structurels encore, des prises en charge de ces magistrats qui vont être envoyés dans l'arrière-pays. Donc, face à tous ces obstacles-là, c'est pour cette raison que j'ai dit que je mettais un accent particulier sur l'accès à la justice des femmes avec le travail que nous faisons avec Afiamama ainsi que nos partenaires de la justice et du cabinet KTF-LOIS.
Merci Annie. Est-ce que justement vous pouvez m'en dire plus sur les solutions mises en œuvre par le gouvernement et la société civile, notamment si vous pouvez me parler du travail de votre organisation? Comment accompagnez-vous les femmes pour leur permettre de comprendre la loi et l'utiliser pour leur permettre de jouir de leurs droits?
Premièrement, nous faisons plusieurs efforts, pas seulement en tant qu'Afiamam, mais je sais qu'il y a aussi d'autres structures qui les font, pour vulgariser les textes des lois, les rendre accessibles dans le fond et dans la forme, je peux dire comme ça. La forme, ce serait peut-être la langue et en même temps aussi le moyen de faire, de transmettre ces messages, ces textes des lois. Parce que si plus la population connaît, plus les femmes sont informées, plus elles dénoncent. Plus la justice prend en charge, moins il y aura ces problèmes-là. Et deuxièmement, au-delà de ces vulgarisations, Je commence par les gouvernements. Le gouvernement a récemment organisé un test pour les magistrats. Ils ont affecté plusieurs magistrats dans des juridictions un peu partout au pays pour répondre tant soit peu au problème de sous-effectifs des magistrats dans les juridictions judiciaires. Mais au niveau de la société civile, j'ai parlé de la vulgarisation. Il y a aussi plusieurs autres organisations qui offrent les services des cliniques juridiques. En ce qui nous concerne, nous, Afiamam, ce que nous avons fait, nous avons adapté notre approche du travail au contexte socioculturel pour réduire la stigmatisation sur les femmes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons développé un partenariat entre Afiamam en tant qu'une ONG féminine connue pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Et un cabinet d'avocats KTF Lawyers, qui est un cabinet d'avocats comme tout autre cabinet. Alors, pourquoi nous avons adopté cette approche? Puisque, avec des cliniques juridiques, toute la communauté sait que cette femme qui entre là-bas est allée accuser son époux qui l'a frappée. Alors que dans l'entretemps, toute la communauté, la norme sociale est qu'une femme qui n'écoute pas son mari, les maris peuvent taper, contrairement à ce que dit la loi. Qu'est-ce qui se passe au niveau social? Une femme vient se plaindre de la violence domestique, tout le monde la vit entrer, sortir. Les rumeurs commencent un peu. La question qui m'a été posée avant, c'est une mauvaise femme, elle a accusé son mari, elle va faire arrêter son mari. Et assez souvent, nous avons eu des plaignantes qui se sont rétractées des procédures judiciaires. Pour des questions de violence sexuelle, par exemple, pareil, quand c'est une clinique juridique, c'est connu, les femmes qui vont là-bas, ce sont des femmes qui ont été violées. Avec le temps, on va avoir des victimes qui ne veulent pas y aller parce que tout le monde sait que quand une femme ou une fille entre là-bas, elle s'est fait violer. C'est ainsi qu'au bout de quelques années, nous avons changé d'approche. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un partenariat avec un cabinet d'avocats. Nous faisons la gestion des cas et la coordination. Ça veut dire que lorsqu'on détecte les cas de violences domestiques, par exemple, au niveau de l'association, nous enregistrons ces cas-là. Nous prenons les dispositions pour qu'elles soient suivies par un psychologue ou une psychologue. Mais ensuite, par rapport à la justice, nous faisons un référencement vers les cabinets. Quand elle va au cabinet, là-bas, elle est reçue comme tout autre client du cabinet, comme un client qui vient ouvrir une entreprise, comme un client qui vient pour demander les divorces, comme un client qui va. C'est comme tout autre client. Et avec cette approche, pour nous, ça réduit considérablement les stigmates sur les femmes et ça a augmenté les résultats des décisions de justice que nous avons eues. Puisque un autre défi, j'avais souligné les défis du coût de l'accès à la justice en RDC, au niveau de nos actions, nous avions avant noté que lorsque les acteurs du système judiciaire savent que cette ONG a un projet financé pour la prise en charge juridique, les dossiers y soient ralentis ou il y a des coûts vous n'êtes pas censé payer, mais vous finirez par contribuer parce que vous estimez qu'il les faut pour faire avancer les dossiers. Par exemple, les policiers, ils vont vous dire tout simplement, ils n'ont pas de papier ou des stylos. Vous allez vous retrouver à offrir des papiers et des stylos alors que c'est un coût qui est lié à l'accès à la justice que vous n'êtes pas censé prendre en charge. Alors, cette approche de travail avec les cabinets, ça nous a permis de réduire certains coûts puisque quand les avocats suivent, ils ne les suivent pas pour une ONG, c'est pas ce qu'ils brandissent comme une ONG, mais c'est des avocats qui viennent suivre les dossiers de leurs clientes. Et maintenant, parallèlement à cette approche, nous sommes à notre cinquième année maintenant, nous avons mis en place ce que nous appelons la maison d'aide sociale, qui serait un peu l'équivalent des One Stop Center qu'on dit, mais tout simplement la différence, c'est que nous, ce n'est pas libellé de l'extérieur. C'est une maison qui est disponible, meublée et tout. Si nous avons un cas où nous sentons que la sécurité de cette femme est en danger, puisque parfois une femme qui a dénoncé sa propre famille veut la ramener chez son bourreau, alors si nous avons une femme comme ça, nous allons garantir sa sécurité en la mettant momentanément dans cette maison d'aide sociale. Et pendant qu'elle est dans la maison d'aide sociale, il y a un psychologue, il y a une assistante sociale. Si elle a besoin des soins de santé, nous n'avons pas de clinique. On va encore une fois donner un bon de la même manière qu'elle est allée en justice, de la même manière elle va aller voir un médecin. Et donc, cette approche pour nous garantit la dignité humaine de la femme, réduit la stigmatisation, mais aussi en même temps augmente sa protection et ça nous permet d'arriver jusqu'au bout en termes de décisions de justice. Donc, nous avons eu plusieurs jugements, plusieurs condamnations et même réparations au cas par cas que nous avons reçus. Nous sommes allés jusqu'à 65% des décisions de justice. Contrairement au niveau pays, nous avons les sous-clusters VBG qui est dirigé par UNFPA qui peut vous dire qu'on n'arrive pas à atteindre 10% des décisions de justice sur les cas qui sont dénoncés, qui sont connus et qui sont envoyés en justice. Mais nous, en tant qu'ONG, avec notre nouvelle approche, on est allé au-delà des 60%, jusqu'à 65% des décisions de justice des cas que nous avons reçus. Voilà un peu ce que nous, comment est-ce que nous essayons de contribuer à l'accès à la justice. Et puisque parallèlement à ça aussi, une autre spécialité, enfin, je veux dire, notre travail que nous faisons assez bien, c'est le travail des plaidoyers. Donc, une fois que nous suivons les cas, nous allons identifier les décideurs qui peuvent s'assurer que le cas de cette victime-là est bien traité, qu'il n'y a pas des problèmes de corruption qui peuvent entacher les cas. S'il y en a, les avocats vont réquiser parfois les juges ou les procureurs jusqu'à ce que nous arrivions à avoir une décision de justice.
Merci Annie, c'est extrêmement intéressant. L'année 2023 a marqué le 20e anniversaire de la signature du protocole de Maputo. Je rappelle, ce document établit des droits étendus et progressistes pour les femmes, notamment le droit à la santé et à la reproduction, à l'héritage, au bien-être économique et social, à l'éducation et à la formation, à l'accès à la justice et à une protection égale devant la loi, ainsi qu'à l'élimination de pratiques néfastes. Bien que l'adoption de ce document ait été une avancée significative pour les droits des femmes, des lacunes en termes de mise en œuvre sont observées dans de nombreux pays. Quels défis et obstacles avez-vous notés en RDC sur l'implémentation de ce protocole? Les acteurs locaux bénéficient-ils d'un accompagnement adéquat pour la compréhension et la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux de ce genre?
En ce qui concerne l'application des protocoles de Maputo en RDC, je dois avouer que nous avons beaucoup évolué, mais au départ, nous avons quand même pris 10 bonnes années de blocage, puisque la RDC a ratifié les protocoles de Maputo en 2008, mais ce protocole a seulement été publié au journal officiel le 14 mars 2018. Alors, depuis 2018, c'est parti très vite en RDC, puisque déjà, il y avait plusieurs acteurs qui travaillaient sur les VBG, les violences basées sur le genre, qui étaient butés au défi lorsqu'on avait des survivantes de viols qui ne voulaient pas garder la grossesse. Ça nous a permis de travailler en synergie et nous avons créé la coalition contre les grossesses non désirées, où Afia Mama est parmi les organisations cofondatrices de cette coalition, pour mener de plaidoyer tant au niveau national que régional pour accélérer l'application du protocole de Maputo. Quels sont les résultats que nous avons atteints jusque-là? L'Ordre des médecins et les conseils supérieurs de la magistrature, ils ont pu travailler avec la société civile, parfois même et les quelques élus, pour réviser les normes et directives. Je vais prendre un élément dans ces normes et directives. Par exemple, avant, c'était quand une femme demandait à accéder à l'avortement, c'était que pour la raison thérapeutique, d'abord pour avoir les protocoles de Maputo. Il fallait qu'il y ait 3 médecins qui approuvent. Alors, généralement, ces femmes n'ont jamais eu gain de cause. Les enfants sont nés avec malformation ou problème mental. Alors maintenant, avec les protocoles de Maputo, cette disposition des normes et directives pour le médecin, pour les prestataires du moins, a été allégée. Un autre problème que je peux soulever, c'est le problème de consentement des mineurs. Une mineure violée qui ne veut pas garder des grossesses a le droit elle-même de se choisir un adulte en qui elle a confiance pour bénéficier de ces services-là. Donc, au niveau des normes directives, c'est allégé. Maintenant, autre chose qui a été faite, c'est le travail avec le ministère de la Santé. Plusieurs zones de santé ont accepté d'intégrer les services de l'accès à l'avortement sécurisé, puisque le norme et directive a aussi donné les critères et les standards que les cliniques doivent observer pour offrir ces services-là. Ça, c'est fait. Quelques partenaires ont appuyé les formations des prestataires dans quelques zones de santé qui offrent ces services. Mais le défi est qu'il n'y a pas beaucoup de prestataires, il n'y a pas beaucoup de zones de santé qui ont intégré ces soins d'accès à l'avortement sécurisé. Deuxièmement, on a un problème de rupture des intrants parce que l'avortement sécurisé, ça, on a besoin des médicaments pour ça et il doit être subventionné et parfois les centres de santé qui ont accepté d'intégrer ces services connaissent les problèmes des ruptures des produits. Mais les vrais défis que nous avons maintenant, c'est notre code pénal qui a les articles 166, si je ne me trompe pas, 168. Ce sont des articles qui criminalisent encore l'accès à l'avortement sous toutes les formes, que ce soit pour le viol, pour... Il y a contradiction entre les protocoles de Maputo qui est publié au journal officiel et le code pénal qui maintient encore que l'accès à l'avortement soit criminalisé. Donc, c'est les défis que nous avons maintenant et les travaux que nous allons essayer de faire avec la législature actuelle, c'est d'arriver à réviser ces articles du code pénal, à intégrer les dispositions ou les exceptions du protocole de Maputo dans le code pénal, afin que notre code pénal puisse élargir sa liste des exceptions, que ça ne soit pas que pour des causes thérapeutiques, mais que ça prenne toutes les exceptions du protocole de Maputo, les grossesses issues du viol, d'inceste, lorsqu'il y a les problèmes de santé mentale, enfin les problèmes thérapeutiques liés au fœtus ou à la mère.
Merci Annie. Vous êtes présente dans de nombreux forums internationaux, comme la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies ce mois de mars. Comment percevez-vous concrètement la relation entre votre engagement au Congo et votre participation à ces rencontres internationales? Identifiez-vous des disjonctions éventuelles entre les deux sphères? Et en quoi vos expériences au Congo influent-elles sur votre implication dans ces espaces internationaux et inversement?
Personnellement, de mon expérience, nos participations à des forums internationaux, ça a permis quand même à d'autres acteurs partenaires de la RDC ou ceux qui veulent soutenir la RDC de mieux comprendre les problèmes des femmes, puisque je suis une activiste des droits des femmes, ou les problèmes sociaux, afin de mieux orienter l'appui qu'ils peuvent diriger vers la RDC. En ce sens-là, en tant qu'activiste, moi, je suis contente parce que aussi, par moments, nous avons, de mon expérience, constaté qu'il y a eu souvent un décalage entre la réalité et ce qui y est présenté lorsque ce sont les politiques qui les présentent. En quel sens? Le gouvernement a la responsabilité de protéger sa population. Donc, si un représentant du gouvernement doit faire un rapport quelconque à l'international et se focalise sur ce qu'ils ont fait, qui a marché, ce qui a donné les bons résultats. Alors que nous, en tant qu'activistes, on vient pas en opposition, mais en complémentarité pour montrer que ça, c'est bien, mais ça reste à faire. Ça a été important pour compléter un peu la compréhension de nos partenaires à l'international. Maintenant, à l'inverse, il y a parfois aussi des soucis, comme par exemple, j'ai parlé tantôt ici, en tant qu'actrice de première ligne, parfois on n'est pas prise en considération ou nos avis ne sont pas pris au sérieux tout de suite. Ce qui fait que on va attendre gérer les conséquences, alors que si on considère ce que nous disons, ça peut permettre à ce que nous puissions plutôt travailler dans la prévention. Mais quand même, ce qui est bien, enfin, je pense, ce qui est bien est que dans notre contexte, lorsque vous avez été entendu à l'international, je prends un exemple, j'ai été faire les briefings des conseils de sécurité des Nations Unies. Quand je fais ça, du coup, au niveau pays, ils veulent comprendre qu'est-ce que j'ai dit, alors que je suis partie d'ici pour aller les dire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, cette participation au niveau international, ça permet à ce que la voix de la société civile congolaise ou des activistes de droits des femmes au niveau du Congo soit plus prise plus au sérieux par les décideurs et qu'ils considèrent ça. Un autre exemple que je peux te prendre aussi, la participation des femmes dans les processus de paix. Quand les processus de paix sont conçus, c'est au pays, ce sont des belligérants. Quand ils mettent leur délégation pour aller négocier, chacun met sa délégation. Mais plus nous en parlons au niveau international qu'il n'y a pas de femmes dans ces processus de paix, plus tous les belligérants vont commencer à considérer qu'il faut quand même mettre les femmes. C'est comme pour dire notre participation à l'international, ça permet aussi de contribuer à ce que les décideurs nous écoutent ou considèrent ce que nous proposons sur des problèmes qui nous affectent.
Merci Annie. Pour commencer à conclure cette interview, quelles sont les réussites dans le cadre de votre travail qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous souhaitez mettre en avant?
Waouh! Moi, je parlerai de la publication du protocole de Maputo au journal officiel. Ça a été quelque chose, au bout des 10 ans de lutte, ça a été quelque chose de très important parce que ça a ouvert, au fait, la voie à l'accès des femmes à un service qui leur revenait de droit. Autre chose qui me tient à cœur, c'est le fait que je pense que pour une personne qui a eu le parcours que j'ai eu, qui est quand même atypique, parce qu'une chose que je n'ai pas soulignée quand j'ai parlé de moi, c'est que j'ai plusieurs fois arrêté mes études. Donc, pendant très longtemps, je ne pouvais pas avoir un titre académique pour dire voilà les diplômes que j'ai eu, mais mon expérience m'a donné au fait une maîtrise de la situation qui m'a permis aujourd'hui de créer un cadre qui donne la voix aux autres. Moi, je pense que c'est le plus important au fait. Au finish, j'ai pleuré pour ma vie et pour la vie de ma fille, mais arriver aujourd'hui à un moment où je sais qu'une prise de décision, une action que je peux mener, ça peut avoir de l'impact sur des milliers de vies. Et dans l'entretemps, avec Afiamama, il y a quand même un peu plus de 1 500 personnes, volontaires, bénévoles. Je crois que sans vous faire une longue liste, ça seulement, c'est quelque chose de très grand, de dormir et de se réveiller tout en sachant qu'on contribue tant soit peu à l'amélioration du statut des autres, à faire entendre leur voix, à mettre le sourire sur leur visage, à mettre les repas sur leur table, à mettre le toit sur leur tête. Je pense que c'est des réalisations qui donnent un sens d'accomplissement d'une mission divine.
Merci pour cette très belle réponse, Annie. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur les projets sur lesquels vous travaillez actuellement?
Actuellement, nous travaillons sur le projet de lutte contre les violences faites aux femmes dans la province de la Tchopo. Je crois que j'ai mentionné ça. C'est d'une part l'accès à la justice, d'autre part l'autonomisation économique, mais il y a aussi l'apprentissage des métiers, la vulgarisation des textes de loi. J'aime ces projets parce que pour la première fois, pour Afiamama, nos experts, les avocats avec lesquels nous travaillons, un d'eux, notamment Maître Frédéric Kwamba-Tchingège, a écrit un édit pour fixant des modalités pratiques de lutte contre les violences basées sur le genre et des promotions de droits d'accès à la justice pour la province de la Tchopo. Et cette loi a été votée au niveau de l'Assemblée provinciale, promulguée le 10 avril 2023. Maintenant, nous sommes à l'étape où nous devons travailler sur la vulgarisation, puisque c'est une loi qui garantit les droits d'accès à la justice pour pousser au fait à ce que plus de victimes puissent accéder à la justice. Nous travaillons aussi sur les projets des luttes contre le mariage précoce. Cette fois, nous sommes dans les Katanga, au sud-est. L'accès à l'éducation, l'accès à l'avortement sécurisé pour les survivantes de mariage précoce qui ne souhaitent pas garder leur grossesse. Et au nord Kivu et sud Kivu, nous sommes en train de travailler sur des questions de participation des femmes dans les processus de paix au niveau communautaire. Et nous faisons aussi un peu de réponse humanitaire dans le nord Kivu et la province de l'Ituri. Au niveau de l'Équateur, la plupart des projets que nous faisons, c'est vraiment la vulgarisation des lois, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'exploitation sexuelle. Nous travaillons notamment avec des élèves pour qu'au niveau vraiment des enfants, déjà qu'ils puissent intérioriser les droits et devoirs qu'ils ont en ce qui concerne les droits des femmes et des filles. Et à Kinshasa, nous avons des projets sur la santé sexuelle et reproductive. C'est l'accès aux méthodes contraceptives, l'accès aux soins complet d'avortement, l'accès aux soins liés à des maladies sexuellement transmissibles. Et nous avons un projet sur la protection de la mère et de l'enfant. Là, encore une fois, c'est vraiment lié à la santé de la mère et de l'enfant, tout ce qui est planification familiale d'une part et d'autre part la santé de l'enfant. Et de manière plus globale, nous faisons plusieurs plaidoyers, tant au niveau local, provincial que national, sur les droits d'accès à la terre pour les femmes et à leur héritage. Et comme je l'ai déjà mentionné, avec la législature qui va commencer, nous allons travailler sur la révision du code pénal en lien avec l'accès à l'avortement qui devrait être, si pas dépénalisé, mais que les exceptions soient élargies. Et aussi, un projet que nous allons commencer, c'est un projet sur la lutte contre la désinformation et les messages de haine. Et juste clôturer par une chose, nous sommes en train de finaliser la construction de notre propre première maison d'aide sociale. J'ai mentionné qu'on tenait une maison d'aide sociale, mais c'était en location. Et là, nous avons commencé à construire l'année dernière. Et cette année, nous espérons trouver assez de ressources pour finaliser la construction de la première maison ici à Kinshasa et ainsi savoir que nous avons un endroit qui nous appartient où les femmes peuvent se sentir en sécurité.
Merci Annie. Pour conclure, quel est votre espoir pour l'avenir des femmes en RDC? Quels changements et quelles améliorations vous semblent essentiels pour créer un avenir plus équitable et prometteur pour les femmes de votre pays? Et comment envisagez-vous de contribuer à la réalisation de ces aspirations?
Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, je dirais que nous avons déjà beaucoup de droits garantis dans nos textes de loi, dans notre cadre légal. Mon espérance est que nous puissions vraiment, avec ces hommes et ces femmes qui ont compris, améliorer d'abord l'accès à la justice. Vous savez, il n'y a que la justice qui élève une nation. Aussi longtemps que notre justice ne travaille pas dans l'indépendance totale, aussi longtemps que l'influence des politiques ne va pas influencer les décisions de justice, on ne va pas avancer. Comme j'ai dit, mon espérance est qu'on arrive à avoir un système judiciaire indépendant, impartial, qui va travailler que pour faire appliquer les lois et non pour répondre aux intérêts personnels de certains individus. Ce que je fais ou ce que nous faisons en tant que structure, je crois que nous allons continuer à les faire, c'est vulgariser les textes des lois, mener des plaidoyers, sensibiliser la population, parce que plus la population va comprendre qu'ils ont des droits, plus la population va comprendre que les agents de l'État sont leurs serviteurs, plus ils vont devenir exigeants, plus les services sociaux, les services publics vont s'améliorer. Et avec un peu d'espérance, nous finirons par vivre dans un pays ou un Congo qui va être mieux que le Congo d'hier et le Congo d'aujourd'hui.
Annie Maudit, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents de la série Champions du changement sur le site web sdg16.plus et les Massolo Yekati sur toutes les plateformes d'écoute.
Merci beaucoup, chère Léa et chère Alice. Juste pour clôturer aussi, moi j'en profite pour remercier toute mon équipe ainsi que votre équipe qui nous a donné cette attention et ajouter un élément que nous travaillons aussi beaucoup à travers les sports et surtout les arts martiaux pour permettre aux femmes survivantes des violences basées sur le genre de se reconstruire et construire la confiance en elles et être en mesure de faire l'autodéfense.
Merci Annie.
Merci beaucoup Annie.